petit.
C'est l'or. Il est l'or. L'or de ce pays.
Et l'or. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, sur les chemins, sur les chemins, à bicyclette, bicyclette, bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.
Bonjour et bienvenue à tous sur votre émission Il est l'heure Monseigneur. Alors aujourd'hui, événement, hein, c'est la 100e de Il est l'heure Monseigneur. Donc non seulement on a des chroniqueurs, mais en plus on a des invités aujourd'hui. Alors, je vous en parle tout de suite après. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Bonjour Josiane.
Salut.
Bonjour Jacqueline.
Bonjour.
Et alors Marc va nous arriver dans quelques instants parce qu'il n'avait pas noté l'heure qui n'est pas habituelle. Bonjour Cathy, bonjour Annick et bonjour Paul-Marie. Vous êtes de l'association AFCCC comme Association Française des Centres de Consultation Conjugale. C'est bien ça ?
C'est parfait.
Bon, vous allez nous dire tout ce qu'on doit savoir sur votre association, mais je vous propose tout de suite, on va attendre pour la phrase du jour puisque Marc va arriver dans quelques instants, je vous propose tout de suite d'écouter une chanson en lien avec le thème du jour. Il s'agit de la chanson « Aimons-nous ». Quand même, une chanson de Yvon Deschamps, un Québécois, et reprise par Ariane Moffat, Karim Ouklet et La Bronze. À tout de suite.
Après jour, aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour, aimons-nous de rage, aimons-nous mais sans pitié, aimons-nous en cache, aimons-nous sans amitié.
C'était Aimons-nous, la chanson de Yvon Deschamps, reprise par Ariane Moffat, Karim Ouellet et La Bronze. Une chanson de reprise en 2019. Voilà. C'est un petit peu dans le thème du jour, mais juste avant de revenir vers la FCCC, on va accueillir Marc. Bonjour Marc.
Bonjour, bonjour.
Il est en retard.
Bon,
retard.
Marc, on a eu un faux départ, mais c'est pas de ta faute. Hein. Bon, on va te mettre tout de suite dans le bain. Quelle est la petite phrase du jour, Marc?
Ben voilà, c'est une phrase de Gandhi et qui est intéressante en ce moment où on parle beaucoup de projets scolaires hein, pour les gens qui passent le bac, etc. Donc, alors il nous dit la chose suivante: j'ai toujours pensé que le vrai manuel de l'élève, c'était son professeur. Le vrai manuel de l'élève, c'est son professeur.
Oui, alors
on l'oublie un peu souvent.
À l'époque où on fait des formations en ligne, là autant dire qu'on n'apprend plus grand chose finalement.
Ben, oui. Peut-être pas avec les mêmes qualités. Et quand on met entre les mains des élèves maintenant l'ordinateur, d'ailleurs on commence à revenir en arrière. Mmh. Moi, mon épouse qui était prof, elle discutait avec une de ses collègues, enfin même de notre fille qui est prof d'histoire géo, qui va arrêter de permettre aux jeunes, enfin aux élèves, d'avoir la tablette. Ils vont se servir des moyens numériques, mais d'une manière pédagogique
différente,
au ouais. niveau collectif. Parce qu'ils bon. Se rendent compte que ça a des effets pervers.
Est-ce que ça voudrait dire que la relation est importante dans les apprentissages, du coup?
Oui.
L'humain, je pense que la transmission et l'humain, c'est ce qui nous réunit, hein. Le lien.
Oui. Et ça, le lien numérique, il est quand même, il est performant, mais il est limité.
Hein. Bon. Bon. Merci Marc pour cette petite pensée. On y reviendra certainement dans l'émission. Donc aujourd'hui, on reçoit la FCCC, Paul-Marie, Annick et Cathy. Racontez-nous ce qu'est la FCCC et ce que vous faites, s'il vous plaît.
Alors, je vais d'abord commencer par l'histoire un petit peu de la FCCC.
Plus près du micro, Paul-Marie.
Jean-Georges Lemaire, psychiatre, qui travaillait en tant que clinicien avec des personnes et aussi des couples, et qui s'est rendu compte que le couple n'était pas la somme de deux individus, mais un système en soi. Donc, à partir de là, il travaille sur cette notion et il concrétise en 1961 la création de la FCCC et conceptualise l'idée du groupe couple et introduit aussi la dimension psychanalytique. Si je reprends les dates pour faire un peu l'historique, en 1977, la FCCC est agréée comme organisme de formation. Elle favorise la réflexion, la recherche, par une approche pluridisciplinaire à travers la revue Dialogue. Et dans le Maine-et-Loire, l'association se constitue en 1984 avec des femmes et des hommes très engagés sur l'accompagnement, sur la réflexion et l'accompagnement. Et notre président actuel, Monsieur Caillot, a été superviseur des premières conseillères conjugales et familiales du Maine-et-Loire.
En quelle année dans le Maine-et-Loire ?
En 1984.
D'accord.
Voilà, donc c'est une longue histoire qui a vu défiler beaucoup de personnes, mmh. et ça continue toujours, bon. Avec de façon très active.
Bon, la plupart d'entre nous avons été ou serons en couple, donc on est tous concernés quelque part. Les célibataires endurcis...
Même les célibataires endurcis...
Bon, les célibataires, ils ne font pas un couple en soi.
Oui, mais on peut réfléchir sur sa relation oui. affective... Mmh. En tant que célibataire, ça n'est pas. On reçoit aussi beaucoup de personnes seules.
Ok. Bon.
C'est pourquoi on fait pas couple. Est-ce que ça nous manque? Est-ce que ça manque pas forcément? Non, c'est toute personne qui s'interroge sur la vie affective et sexuelle.
Et alors, le couple aujourd'hui, c'est malgré tout la majorité de vos interventions. À quel moment de la vie vous intervenez?
Donc, c'est sûr que le couple, ça concerne toutes les époques de la vie, en fait, hein, tous les âges de la vie. Donc, on peut recevoir des couples très jeunes. Alors, très jeune dans la durée de vie du couple, mais aussi parce que les partenaires du couple sont très jeunes. On peut recevoir des gens qui ont qui sont dans la vingtaine en fait, hein. Et puis on va recevoir des couples de toutes les décennies, je pourrais dire la trentaine, la quarantaine, de plus en plus de couples aussi à l'aube de la retraite, parce que c'est vrai que la retraite c'est un moment difficile, hein. Moi j'ai commencé le conseil conjugal il y a 20 ans, plus de 20 ans, donc au début je voyais pas trop les gens au moment de la retraite, mais c'est vrai que depuis une petite dizaine d'années, on voit bien que c'est une période un peu charnière qui vient créer des difficultés.
C'est le moment où il faut apprendre à vivre ensemble.
Où il faut peut-être réapprendre à vivre ensemble. Peut-être aussi laisser tomber des illusions. Hein. On pourrait se dire que plus on avance en âge, moins on a d'illusions, mais c'est pas vrai. Je crois que quand on avance en âge aussi, on a des illusions. Et quelquefois, notamment à l'aube de la retraite, c'est maintenant... on va avoir du temps pour nous, tout ce qu'on n'a jamais pu faire, on va pouvoir le faire, et on va repartir comme aux plus belles années de notre rencontre. Bon,
il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps.
L'histoire est belle, l'histoire est belle sur le papier, dans la réalité, évidemment, ça se parle un peu autrement. Hein, donc, les conseillers conjugaux et familiaux, ils interviennent vraiment sur toutes ces situations de crise. Donc, les crises, nous, on a l'habitude de dire qu'il y en a un peu de deux types, si vous voulez. Il y a les crises dont on pourrait dire qu'elles sont exogènes. Le mot est pas très chouette, mais enfin, on comprend bien ce que ça veut dire. Hein. Les crises exogènes, ça veut dire la crise qui vient de l'extérieur. Donc, ça peut être l'arrivée d'un enfant. On parlait...
Les chicoufles, là.
Qu'est-ce que c'est, les chicoufles?
C'est les...
Dans le micro, Josiane.
Ah, oui. Alors, ce sont les petits-enfants, quand ils arrivent chez les grands-parents, pour ou des vacances ou autre. Alors, on dit chic, ils arrivent.
Ah, et ouf, ils s'en vont. Ah, les chicoufles. Très bien. Très bien, très bien. Très bien, je ne connaissais pas, je me rappellerai de l'expression.
Ah, mais ça, c'est maintenant, c'est rentré dans le langage.
Voilà.
Notamment des grands-parents.
Notamment des grands-parents, hein. Donc voilà, donc, c'est ça, c'est-à-dire, ça, ce sont, on pourrait dire, les crises exogènes. Ça nous arrive de l'extérieur et on est obligé d'y faire face. Et quelquefois, ça vient rompre un équilibre plus ou moins bien installé, en fait, ça dépend. Et puis, il y a des crises, on pourrait dire, qu'on appelle endogènes, qui viennent plutôt, je dirais, parler de la manière dont le couple s'est structuré ensemble. Hein, comment ces deux-là, hommes et femmes, ou hommes et femmes-femmes, peu importe, mais en tout cas, comment ces deux-là se sont rencontrés et ils ont fait couple ensemble. Hein. Et là, à ce moment-là, on a des couples qui disent, on sait pas pourquoi, mais on se dispute, c'est toujours de la même manière, ça commence pour des broutilles, mais en fait on en a marre parce que on répète sans arrêt la même chose.
Mais des fois c'est tout simplement parce qu'on s'est trompé de partenaire aussi, et qu'on s'en aperçoit tardivement.
Alors, est-ce qu'on
faut-il toujours sauver le couple? C'est le fond de ma question.
Ah oui. C'est pas forcément notre objectif de sauver le couple. C'est d'avancer avec lui et puis de voir si effectivement l'histoire, elle peut se continuer et se jouer autrement. Ou alors si on est arrivé au bout du chemin, le chemin qu'on avait à partager à deux. Est-ce que ça veut dire qu'on s'est trompé?
Ça peut arriver. Jean-Jacques, tu voulais réagir.
Quand vous dites « on », ça veut dire qu'on vient forcément à deux?
Non. Non, c'est peut-être des gens en couple, mais qui viennent seuls parce que c'est plus la question d'un membre du couple. Donc, tout est possible. En fait, on a l'habitude de dire à la FCCC qu'on tient conseil. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'objectif. On n'a pas l'objectif de sauver le couple. C'est d'accompagner, tenir conseil dans le cheminement des uns et des autres. Alors, quelquefois, ça aboutit sur la construction d'un autre couple sur d'autres bases. Et parfois, c'est la rupture. Mais savoir pourquoi on rompt, et est-ce que c'est les bonnes raisons, et comment on va reconstruire après. Et après, il y a aussi toutes les questions des enfants. Une rupture, c'est un long processus dans le couple et dans la famille.
Et est-ce que dans vos expériences, vous constatez une même configuration pour les couples qui fonctionnent et pour ceux qui ne fonctionnent pas? Est-ce que quelque part, avec les années d'expérience que vous avez, les décennies maintenant, est-ce que vous, dès le premier coup d'œil, vous voyez un couple dysfonctionnel et qui est irrécupérable parce que l'un est auto-centré et pas ouvert à l'autre, je sais pas. Comment vous vivez les choses, vous, quand vous les recevez, ces familles?
Alors, on se regarde et on sourit parce qu'on se demande un peu par quel bout on va prendre votre question. Mais en fait, non, je crois pas qu'on puisse dire d'emblée, ah bah de toute façon, eux c'est foutu, ou eux... Non, ils sont trop mignons, faut quand même qu'ils durent ensemble. Hein, donc non, ça je crois pas vraiment qu'on puisse se dire ça. Alors, qu'est-ce que votre question, vous disiez,
Est-ce qu'il y a une configuration type?
Ah oui, une configuration type. Donc non, il n'y a pas de configuration type. En fait, moi, ce que je pense, je sais pas si mes collègues sont d'accord, mais on l'a tous vécu, ça. Quand on est en crise, on réfléchit pas bien. Parce que on est excédé, on est parfois découragé, parfois on en veut à l'autre, on a peur de se séparer de l'autre, hein, parce que qu'est-ce que je vais devenir? Je vais vivre seul, les enfants sont petits, enfin, que sais-je? Ou alors on est âgé, pas on est vieux, j'ai bien retenu la leçon, mais on est âgé, et du coup, qu'en penseraient nos enfants, par exemple? Enfin, je dis des choses qui me passent par la tête, hein. Donc, on réfléchit plus très bien. Et le fait de tenir conseil, comme disait Paul-Marie tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on va proposer un cadre et un dispositif qui fait que les personnes ici, elles peuvent tout dire, même si ça leur paraît absurde, mais ça ne sortira pas du bureau. C'est très rassurant de savoir que, à cet endroit-là, on peut tout dire, les idées, même les pires, voilà, mais que, ça, vous voyez, ça va faire un peu comme un sas de décompression.
C'est libérateur.
Voilà, c'est libérateur. Et plutôt que, quand on est chez nous, comme on n'est pas content avec notre conjoint, très souvent, on l'agresse. On commence comme ça. Hein, on l'agresse, et puis on l'agresse un petit peu, et puis on répète, et puis on répète encore. Et donc, ça met de l'attention inévitable. Alors que quand ils viennent chez nous, je dirais, il y a presque un côté magique de fait, c'est-à-dire que le fait d'être devant quelqu'un d'autre, quand même, il y a une certaine retenue. Mmh. Chacun essaie de dire les choses le mieux possible. Voilà. Donc, l'objectif du travail, c'est pas tant de discerner effectivement si eux c'est possible ou si c'est plus possible. C'est déjà que chacun s'apaise et puis puisse se raconter à lui-même pourquoi ça va pas. Et que chacun fait ça dans le couple. Et le fait d'entendre mon partenaire dire lui là où il en est, le fait que je m'entende moi-même raconter là où j'en suis, eh bien, en général, ça apaise beaucoup les tensions et les agressivités, les petites agressions quotidiennes, elles diminuent, en fait.
Ça peut rétablir le dialogue entre eux.
Absolument, absolument. C'est vraiment le premier objectif. Mais pour rétablir le dialogue, faut déjà être un peu apaisé en soi. Sinon, il n'y a pas de dialogue possible. Et faut pouvoir écouter.
La colère est mauvaise conseillère.
Très. Bon. On le sait bien.
L'écoute, je crois que communiquer, c'est d'abord écouter.
Et oui.
On est d'accord.
Oui.
Et pas une écoute, pas entendre. C'est aller chercher chez l'autre, le comprendre. Enfin,
C'est ça.
C'est tout. Et moi, j'appelle ça l'écoute compréhensive.
C'est ça.
Et ça, d'ailleurs, c'est valable dans votre démarche, mais c'est valable partout. Hein, je pense qu'il y a dans le quotidien. Mais c'est vrai que là, j'ai eu la chance dans ma carrière professionnelle de rencontrer quelqu'un qui m'a formé à la communication. Et c'est très drôle parce que je me souviens, on avait discuté, on parlait des gens timides. Il dit timide, mais c'est quoi les gens timides? C'est des gens qui sont sensibles à ce que vous allez dire. Ils sont sensibles à ce que l'autre va ressentir, c'est ça, va ressentir de ce que je dis. Mmh. Et donc ils vont s'ajuster par rapport à ça. Et bon, et ça dépend à qui ils parlent. Mais enfin bref, vous voyez, cette écoute compréhensive, c'est un bien très précieux, je pense. Absolument. Qu'il faut cultiver.
C'est précieux. Mais vous savez bien que pour ça, il faut être disponible, en fait.
Bien sûr.
Il faut être un peu disponible en soi. Et si je suis avec mon conjoint et qu'on est toujours en guéguerre, eh bien, je ne suis plus disponible du tout pour cette écoute compréhensive. Mais on peut être assez d'accord avec avec l'expression.
J'entends, mais je n'écoute pas.
C'est ça.
Je vous propose une petite pause musicale avec une petite question qui peut être aussi dans le couple. Hein. Il s'agit de la chanson « Tu veux ou tu veux pas ?» par bébé. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après.
Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà. voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, c'est noir, oui mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux ou tu veux pas. La vie, oui c'est une gymnastique. Et c'est comme la musique, il y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi elle est magnifique. Pourquoi tu te la compliques par des hésitations? Tu veux ou tu veux pas? Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. La vie,
on s'est un petit peu twisté là dans le studio, j'ai l'impression. Il y a des genoux qui ont bougé dans tous les sens. C'était Bébé, une chanson, si je dis pas de bêtises, 1973. J'ai un doute sur la date, je vais pas dire de bêtises. On était sur une notion, tu veux ou tu veux pas. Effectivement, c'est une question qui se pose dans le couple, ça. Comment vous l'abordez, cette question-là? Est-ce que on n'est pas toujours en phase avec le partenaire, voilà. Et effectivement, parfois il y a besoin de se rejoindre.
Ah oui. Alors, ah oui. Alors, tu veux ou tu veux pas, c'est ça un peu la chanson.
C'est ça.
Donc, ben oui. C'est-à-dire que ça, c'est la dimension évidemment de l'érotisme et de la sexualité dans le couple. Hein. Donc. Peut-être on a longtemps mis ça un peu sous le tapis en se disant que puisqu'on était en couple, ça allait de soi. Dans la réalité, hein, quand on reçoit les couples ou même quand ils viennent seuls pour parler de leur couple, ben on voit bien que la sexualité est quand même une question au devant de la scène, même si elle ne vient pas spontanément dès le premier entretien parce que il y a un peu une retenue, voilà, c'est ça, un peu une forme d'intimité, hein. Mais c'est une question qui vient, et évidemment que très souvent, on entend, et ça fait terriblement souffrir les membres du couple, ce déséquilibre dans le désir, hein, dans le désir autour de la sexualité, hein. J'ai envie, mais elle a plus envie. Si elle a plus envie, c'est donc qu'elle ne m'aime pas. Et puis si j'ai pas assez envie, alors il va aller me tromper ou elle va aller me tromper.
Mais,
enfin,
justement, j'ai envie de dire, quel que soit le public, moi j'ai toujours un problème avec la notion de normalité en matière de vie sexuelle. Je pense qu'il n'y a pas de norme. Un couple, ce sont deux individus. Et donc, de fait, il s'agit d'être le plus en phase possible. Maintenant, l'appétence, il y a des gens qui ont de gros besoins et d'autres pas du tout.
Oui, c'est ça, être le plus en phase possible. Et puis en sachant que c'est terriblement dépendant de ce qui se passe dans la vie. Hein, une naissance, une maladie, enfin, je sais pas, une période de chômage peut-être. Hein, enfin voilà, et à ce moment-là, les désirs, la fatigue, hein, voilà, la fatigue. Donc le désir change. Et comme vous dites, on a en tête des espèces de normalités. Hein, alors il y en a qui disent, bah quand même.
On nous vend du rêve.
Hein, c'est même pas une fois par semaine, ça devrait être une fois par semaine, ou ça devrait être au moins
samedi.
Plus régulier, voilà, le week-end. Le week-end.
Jean-Jacques, c'est pas le jour.
Et puis après, c'est pas le jour, hein. Donc, vous imaginez tous les petits conflits autour de ça.
Est-ce que je peux vous donner une petite blague? Justement, il y a une conférence tenue par des dames comme vous, des professionnels et tout ça. Et alors, celui qui est au micro dit, bon, alors, vous faites l'amour combien de fois par, alors, 4 fois par mois. Alors, il y a des doigts qui se lèvent, hein. Une fois par mois, une fois tous les 6 mois, une fois par an, il y a un doigt qui se lève. Il dit comment, monsieur? Il dit oui, c'est pour ce soir.
Donc qu'il avait bien retenu la date. Il avait bien retenu la date.
Ouais, j'en ai une autre, pardon, dans le même genre. C'est quelqu'un qui me disait qu'il était bisexuel. Il faisait l'amour deux fois par an.
Ah oui. Bah, ça double, hein, déjà. Ça double. Hein. Mais oui, et puis vous voyez bien qu'il y a toutes ces questions de normalité quand on serait un couple jeune, hein, voilà, ou plus jeune. Et puis après, on a aussi des représentations et des images concernant le couple, du couple qui vieillit. Hein. Et là, nos représentations, elles sont vraiment mises à l'épreuve. On a tous idée, j'allais dire, de se dire, oh non, mais en vieillissant, il y a peut-être, il y a plus de relations sexuelles, ou c'est plus de mon âge.
Et c'est tabou.
Ou c'est tabou, hein, ou alors, oh non, vraiment, ils doivent plus avoir envie à partir d'un certain âge. Enfin, il y a des espèces comme ça de représentations dont chacun, on est, alors, on est traversé par ces représentations.
Moi, je suis entre deux générations. Il y a quand même quelque chose qu'il faut dire aussi. On ne conçoit pas que ses parents puissent faire l'amour ou que ses enfants puissent faire l'amour. Ah. Donc, c'est vrai que ça participe un petit peu, non pas un déni, mais, on met un peu ça sous le tapis, quoi.
Si, absolument. C'est très juste, là vous abordez la place que la sexualité prend dans la psyché humaine, en fait. Hein. Et c'est vrai, qui que nous soyons, nous n'arrivons jamais à imaginer l'amour pour nos parents et jamais l'amour pour nos enfants d'ailleurs. Hein. On s'en protège largement.
Faut pas rentrer là-dedans.
Non, voilà, faut pas rentrer là-dedans, absolument.
Oui.
Et là, on parlait de sexualité, mais ça vient toucher aussi la représentation du mot sexualité. Est-ce que la sexualité, c'est que le rapport sexuel?
Oui, c'est ça.
Est-ce que c'est que faire l'amour?
C'est pour ça que j'aime bien l'idée de la vie affective.
Oui,
voilà. Effectivement, on peut s'aimer le plus tendrement, le plus vachement, le plus débilement, sans relation physique et. Il y a même des gens qui ont des relations épistolaires et qui ont certainement énormément d'intensité dans leurs relations.
Absolument. Et puis même aussi, j'allais dire, quand la maladie s'en mêle. Oui. Hein, ce qui est un peu...
Alors, c'est ce qui nous a fait nous rencontrer avec Annick. Ouais. Ça va être le moment d'en causer. Mais on va tout de suite passer une petite chanson avant d'en parler. Et Jean-Jacques, on enchaînera derrière avec ta rubrique des radios d'antan. Hein. Je vous propose d'écouter, alors là aussi on peut l'interpréter de plein de manières différentes, c'est une chanteuse, une jeune chanteuse, June Milo, je sais pas si ça vous parle, et elle a fait une chanson qui s'appelle Bleu. Alors les bleus, on les aime pas trop sur soi, mais malheureusement ça fait parfois partie de la vie des couples, et j'imagine que vous pouvez aussi rencontrer ce type de public. On écoute June Milo et on se retrouve tout de suite après.
Dans le rouge, je me noie, le noir.
C'était Bleu par la chanteuse June Milo. Alors les bleus, effectivement, c'est ceux qu'on peut avoir sur notre peau. Faut pas que ça nous emmène vers des verres à boire. Annick, on parlait de ce qui nous a réunis il y a pas si longtemps.
Oui, on s'était rencontrés pour échanger un petit peu autour de l'accompagnement du couple et de la famille quand la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées venaient s'inviter là dans la relation. Et donc on a pas mal travaillé sur ce sujet-là, notamment autour de la consentement, de la question du consentement dans la vie affective et sexuelle, et particulièrement chez la personne âgée et quand la maladie d'Alzheimer est de la partie. Voilà. Donc on est des êtres de relation, on le disait tout à l'heure avec votre phrase Marc, d'introduction, on est fait de sensations et d'émotions. Et dans ces maladies-là, eh bien la sphère relationnelle, c'est certainement la première qui est abîmée. L'autre peut devenir étranger. Et en même temps, la sphère des sensations et des émotions, c'est la dernière à être préservée. Et la familiarité, elle reste dans ces maladies-là. Et le couple, finalement, il a à apprendre à se rencontrer sans cesse, à aller sans cesse à la rencontre de l'autre, avec à la fois cette inquiétante étrangeté qui fait que du coup l'autre m'est inconnu par certains endroits, par certains moments, et en même temps avec ce quelque chose-là qui reste, qui fait partie de notre vécu, qui fait partie du passé et qui m'est familier. Voilà. Donc cette danse-là qu'il a à jouer, ce couple ou cette famille qui est confrontée à cette maladie-là, Alzheimer ou maladie apparentée, eh bien elle demande à être accompagnée peut-être d'une façon un peu particulière. Oui. Et le conseil conjugal et familial, il peut se situer à ce niveau-là.
C'est d'autant plus important de le rappeler que vous êtes de bons interlocuteurs en la matière, que parfois la maladie entraîne une grande désinhibition et de fait les comportements sont exagérés quelque part pour certains. Heureusement, c'est pas tous, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Oui. La désinhibition, alors elle peut être seulement verbale, mais elle peut aussi être physique, et là effectivement faut savoir l'accueillir ou composer avec, et c'est pas toujours simple.
On a aussi un malade qui va avoir une personne excusez-moi, une personne qui rencontre, qui est malade aussi de son côté, et il va nouer des relations avec elle, si bien que la femme ou le mari qui vient, plus connu.
Et ça, c'est des choses qui sont terribles dans un couple. Et du coup, souvent, c'est peu accompagné. Parce que les professionnels de santé, ou médico-sociaux, qui sont, ils vont se concentrer très souvent sur la perte de l'autonomie, sur tous les impacts physiologiques, socio-économiques qu'il y a, parce que c'est un tsunami, cette maladie dans une famille. Il y a peu d'endroits qui existent pour parler de cette santé intime.
Sans compter qu'il y a un grand paradoxe, c'est celui de la liberté de la personne malade, qui peut avoir, on va dire, une perception totalement altérée, et qui pour autant est libre de vivre ses émotions aussi. Donc c'est toujours une torture, je pense, pour les uns ou pour les autres, de se mettre en route vers la personne, mais ça nuit à la relation, et c'est ça qui fait un peu mal parfois.
Complètement. Et puis c'est d'ouvrir un espace pour justement essayer d'en comprendre quelque chose, de se représenter ce qui est en train de se vivre peut-être autrement, pour arriver à mettre en place des choses qui font moins souffrir. Et ça, c'est valable tant que si l'aidé est en institution, mais aussi si l'aidé est à la maison, si le couple est resté aussi à domicile.
Bon, on va rajouter un petit peu de légèreté à tout ça, et puis on va demander à Jean-Jacques de nous faire une petite chronique sur les radios d'antan, comme il sait si bien les faire. Alors attention, parce que là, on va changer de ton quand même.
Légèreté, ça veut dire que je suis léger. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une émission radio qui en fait était un radio-feuilleton. C'était comme ça qu'on appelait autrefois les formidables séries radiophoniques, feuilletons radiophoniques, tout à fait dans l'esprit de ses créateurs, feuilletons dont presque tout le monde a entendu parler, sans forcément en avoir jamais réellement entendu une quelconque minute de diffusion. Je veux parler de Signé Furax.
Ça nous rajeunit pas.
Ce radiofeuilleton a été diffusé entre 1950 et 1960. Vous vous rendez compte? 10 ans de bons et loyaux services que nous ont offert Pierre Dac et Francis Blanche. 1034 épisodes de 10 minutes chacun en 5 saisons. C'était de...
Oui, on n'est pas rendu, nous. On est qu'à la centième, nous. Hein.
C'était de 1951 à 1952 sur la chaîne parisienne de la RTF, qui se souvient de la RTF, puis de 1956 à 1960 sur les ondes d'Europe numéro 1. Il y a eu des rediffusions sur cette même station radio fin des années 60. Comme ils le dirent, ils voulaient faire du Fantomas à la sauce loufoque. Ils y réussirent haut la main. Ce fut d'abord en 1951 sous le titre Malheur aux barbus sur la RTF jusqu'en 52, puis retour sur les ondes en 56 avec le titre signé Furax. Les deux compères n'en étaient pas à leur coup d'essai. En effet, ils avaient fait partie de la bande des Branquignoles de Robert Derry, dont, entre autres, Louis de Funès faisait partie. Et ils avaient déjà triomphé dans leur revue Sans Issue, au théâtre des Trois Baudets, dirigé par Canetti. Canetti, qui fut un grand découvreur et amplifieur de talent dans les cabarets parisiens tels Édith Piaf, Félix Leclerc, Georges Brassens, Jacques Brel, Gainsbourg et Higelin. Pas mal, hein? Le générique de présentation était bien dans le style mystérieux, mais on comprend vite que ça va pas être vraiment dramatique, plutôt farfelu, comme le furent les auteurs. À noter, le crieur de journaux, très époque, Rouletabille, Fantomas, bien entendu, Arsène Lupin, Tintin ou Bibi Fricotin.
Signé Furax. Premier épisode.
Demandez les fabuleux méfaits de Furax. Aujourd'hui, l'enlèvement du Père Noël.
Ah, mais aussi dans la présentation, une complainte genre mandrin, accompagnée en musique avec l'orgue de Barbarie, les paroles sont savoureuses, légèrement anarchiques à la manière des Apaches du début du XXe siècle. Accent titi parisien, Renaud avant l'heure, c'est Francis Blanche lui-même qui l'interprète. N'oubliez pas que ce monsieur était l'auteur de la célèbre chanson « Des bidelés, les bidelots », de chanson écrite en collaboration avec Charles Trenet. L'auteur des paroles de la chansonnette, le gros Bill, et voilà le gros Bill. Vous savez, et voilà le gros Bill, et tout le long de l'île, le long de l'eau. On lui doit les paroles françaises de Bésame Mucho, une chanson chantée par Édith Piaf aussi, hein. Francis Blanche a également les paroles de Ça tourne pas rond dans ma petite tête, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Odette Laure qui chantait, c'est une chanson dramatique d'ailleurs. Parfois j'ai de drôles d'idées, chantée par Odette Laure, de la balade de David Croquette aussi. Ouais, ouais. De Plaine ma plaine, les paroles françaises de Plaine ma plaine. La liste est trop longue, mais je rappelle quand même qu'il est l'auteur des paroles françaises et rigolotes de la truite de Schubert, chantée par les frères Jacques, dont je crois vous avoir parlé il y a quelque temps. La complainte de Furax par Francis Blanche.
Écoute, ces braves gens, le récit authentique des méfaits surprenants d'un aventurier cynique. L'insaisissable Furax qui méprise à la fois le bien, la société, les juges et les lois.
Quelques exemples également des noms des protagonistes de Signé Furax. Les détectives Black et White, Maurice Lagrammaire, Léon Clacmuff, Théo Courant. À noter que la voix d'un des personnages appelés Jean-Jacques Socrate était celle de Maurice Birot, dont je vous ai parlé précédemment. Il y a eu une adaptation en film en 1981, avec une distribution chorale, comme on dit maintenant, pleine de second rôle au mètre carré, pour un résultat sympa, sans plus. Francis Blanche était déjà parti. Enfin, ne dites pas chic, soyez pas désagréable. Enfin, dans un dernier petit extrait pour l'ensemble, pour l'exemple de l'ambiance, mystère, minuit, l'heure du crime, cher au feuilleton radiophonique des années d'après-guerre, celle de 39-45, bien entendu.
22 décembre, 10h du soir. Une rue déserte de Bougival. Silence. Dans le halo pernicieux d'un réverbère, deux silhouettes d'hommes noirs sur la neige blanche.
Philodendron.
Monsieur Furax.
Tous nos hommes sont en place?
Oui, monsieur.
Postés aux endroits prévus?
Oui, monsieur.
Prêts à intervenir?
Oui, monsieur. Si monsieur veut bien excuser la monotonie de mes réponses.
C'est bon. Quelle heure as-tu ?
10h09, monsieur.
Il est 22h10. Tu retardes de 12h01. Ça ne fait rien. Allons-y.
Pour vraiment finir, et pour ne pas commencer un quelconque début à démontrer la complexité de Francis Blanche, bachelier à 15 ans. Oui, monsieur, dame, je rappelle que sur sa tombe est gravé « Laissez-moi dormir ». J'étais fait pour ça. Véridique. Si j'en ai l'occasion, je reviendrai un de ces jours sur le cas de son complice, Pierre Dac. Il n'était pas banal, le monsieur. C'est fini.
Bah, il est fort, ce Jean-Jacques. On y était, là. Hein. Ouais. Merci, Jean-Jacques. Avant de continuer ensemble, je vous propose d'écouter une petite chanson à nouveau. Il s'agit de La Tendresse, reprise par un petit groupe qui s'appelle Teen Poppy. Et c'est une reprise un peu style bossa nova. Donc, j'espère que vous allez découvrir et apprécier autant que moi. À tout de suite. C'était La Tendresse en version bossa nova. Est-ce que ça vous a plu?
Très bien.
C'est léger. Et bah voilà. Bon bah. On va ramener un petit peu de légèreté dans cette émission. On va poser nos questions à la FCCC tout de suite après la chronique de l'UFC Que Choisir. Jean-Jacques, t'as le micro, garde-le. Et je crois que tu veux nous parler de ce qui mène le monde aussi aujourd'hui.
Automobile. Triche générale sur les consommations de carburant. Les consommations de carburant annoncées par les constructeurs d'automobiles sont toujours optimistes et bien inférieures à la réalité. C'est vrai depuis longtemps, mais le protocole réglementaire a été modifié en 2018 et la Commission européenne a voulu mesurer les progrès. Malheureusement, rien n'a changé. Le protocole de mesure des consommations de carburant des automobiles qui était en vigueur jusqu'en 2018 faisait l'objet de vives critiques. Ses allures de roulage sur tapis avaient peu de rapport avec les conditions réelles de conduite. La nouvelle formule, depuis 2018, impose des accélérations franches et des vitesses de croisière correspondant aux limites fixées dans la plupart des pays européens. Pour vérifier la fiabilité de cette homologation, la Commission européenne a consulté les données enregistrées dans près d'un million de véhicules neufs vendus en 2021. Cet échantillon représente 10% du marché, mais il a été considéré comme significatif pour effectuer cette mesure. L'étude consistait donc à comparer les volumes de carburant annoncés par les constructeurs avec ceux constatés dans les véhicules. Les résultats montrent que ces essais de laboratoire sur rouleau restent encore éloignés de la réalité. La moyenne des écarts observés est de 23% avec l'essence et de 18% en diesel. Mais certains constructeurs sont très mauvais élèves, notamment tous les modèles du groupe Renault-Nissan. Il y a des raisons objectives pour expliquer une consommation simulée plus économe. Ainsi, la climatisation n'est pas activée, la température est constante et modérée, et le poids moyen des véhicules en circulation est généralement supérieur à celui déclaré pour l'homologation. Enfin, cette étude montre que les moteurs hybrides, rechargeables ou non, sont invraisemblablement avantagés par le nouveau protocole. Leur consommation réelle peut être plus de 100 fois supérieure à celle annoncée. J'ai fini.
Merci Jean-Jacques.
Mais Jean-Jacques, on est roulé par les rouleaux. Hein.
Ouais, c'est ça. Est-ce que l'UFC Que Choisir a constaté que ceux qui avaient des grosses voitures avaient des petits... Pardon.
C'est dans l'esprit de la
tête. Bon. Et je pense une chose, juste une réflexion, c'est quand on parle voiture avec des personnes, des mecs en particulier... Souvent, on parle de la consommation, et toujours, ils mettent la consommation en dessous. Moi, c'est 4 litres, moi, c'est 5 litres. En fait, tu regardes vraiment comment ça se passe.
Et pourquoi donc ils feraient ça?
Parce que ça les met en valeur, tout simplement.
On roule tous mieux que notre voisin, en fait.
Ouais. Hein. C'est ça. On est toujours les meilleurs.
C'est comme à la maison, dans la vie intime, on roule tous mieux que nos voisins.
C'est ça.
Bon, vous aviez des questions lors de la dernière chanson. Est-ce que les auditeurs peuvent en profiter? Non. Dans les questions, il y avait comment on s'adresse à la FCCC aujourd'hui.
Comment ça se passe concrètement?
Comment on s'adresse à vous?
Oui, on a un site. Donc, vous tapez AFCCC 49. Et donc, on a un site qui vient expliquer qui on est, comment on fonctionne et où on peut nous trouver. Et puis on a un numéro de téléphone, particulièrement sur tout ce qui va consister à l'accompagnement du couple ou de la relation de couple ou familiale du couple vieillissant et qui est confronté à la maladie d'Alzheimer ou maladie associée. C'est le 06 04 08 21 12.
On le répète ? Alors, on va le répéter aussi en fin d'émission, mais pour ceux qui auraient le crayon déjà en main, on le répète. Et sinon, allez vite chercher un papier, un crayon.
06 04 08 21 12.
Bon.
On a différents lieux de consultation sur tout le département.
Merci Annick. Ouais.
Alors sur Angers, on est situé tout près des locaux de votre radio, puisqu'on est à la Maison des Familles, qui s'appelle aussi la Parentosphère, hein, c'est un drôle de nom, mais c'est bien celui-ci, la Parentosphère, qui est située là, rue Saint-Exupéry, le numéro c'est, 32 je crois, rue Saint-Exupéry. Hein, donc c'est tout à côté d'ici en fait.
Et juste une dernière question, c'est comment s'articule votre action par rapport... aux coachs, aux sexologues, etc. Enfin, des gens qui abordent ces mêmes questions-là. Est-ce que vous travaillez avec eux ou c'est complètement différent?
Alors, peut-être, on n'est pas trop dans la dynamique des coachs. C'est vrai qu'il y a quelques... On voit ça depuis quelques années, de nombreux coachs qui arrivent, des coachs pour trouver le bonheur, des coachs de vie personnelle, des coachs de vie,
etc. Pour vider le portefeuille.
Hein? Alors bon, ça je vous laisse l'entière responsabilité de ce que vous dites. Mais donc nous, on n'est pas trop dans ce mouvement-là, on est vraiment dans le champ du tenir conseil. Alors après, vous parlez des médecins. Donc on peut travailler, en collaboration, si par exemple la problématique majeure, c'est une problématique de la sexualité autour du rapport sexuel, de dysfonctionnement sexuel. Donc là, c'est sûr que nous, on va pas être qualifiés à cet endroit-là. enfin on va pas être qualifié, ou en tout cas ça peut être un travail qui se fasse, j'allais dire, un peu en conseil conjugal, parce que ça va être aussi source de tensions et de conflits, mais aussi un travail avec un spécialiste là du coup des dysfonctionnements sexuels, hein. Donc on travaille avec des partenaires, hein, psychiatres, psychologues, assistantes sociales lorsqu'il y a besoin, des éducatrices, enfin ça c'est vraiment du côté du réseau professionnel avec lesquels on travaille.
Vous n'êtes pas isolé dans votre coin, vous
y êtes non. Aujourd'hui, on peut plus travailler isolé dans notre coin.
Et moi, j'ai une question, c'est est-ce que vous rencontrez beaucoup de personnes qui disent aussi vie affective et vie sexuelle ?
Écoute, je sais pas, ce que vous dites, ça me fait penser, aujourd'hui, par exemple, vous en avez peut-être un peu entendu parler, on entend par exemple plutôt des jeunes, hein, qui disent qu'ils ne veulent plus de sexualité.
Voilà.
C'est-à-dire qu'ils veulent faire couple, ils sont d'accord pour faire couple, mais ils ne veulent plus de sexualité parce qu'ils pensent que, c'est un peu l'argument qui est donné, que la sexualité, ce serait, j'allais dire, une incarnation de la soumission ou du patriarcat, par exemple. Là. Non, plutôt l'idée que ce serait un rapport de domination, en fait, de domination dans un couple. Fiche, enfin, moi, je partage pas trop cet avis-là, en tout cas, je pense que c'est tout à fait autre, ça peut être tout à fait autre chose que cela.
Et la peur de transmettre des maladies, sida et tout le reste, ça les travaille pas.
On n'en entend pas tellement parler de cela. On fait de l'information auprès des jeunes.
J'ai l'impression que c'est passé au second plan maintenant, ça. C'est plus une priorité.
Ouais. Pour répondre à votre question, il y a peut-être une tendance à dissocier certains couples la sexualité et l'affectivité.
J'avais une typologie de public en disant ça. Je rencontre des parents d'enfants handicapés dont les enfants deviennent adultes et naturellement, j'ai envie de dire, il y a des envies qui s'expriment et parfois les parents veulent un peu piloter ça. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, je prends pas position, mais je me dis que parfois effectivement, je crois qu'il y a un métier aujourd'hui de facilitateur, facilitatrice sexuelle qui existe en établissement. Est-ce que ce sont des gens avec qui vous pouvez vous interagir ou pas ?
Alors, je dirais non comme ça. Là, dans le Maine-et-Loire, là, pour l'instant, ça, c'est pas tellement à l'ordre du jour. Enfin, en tout cas, on n'a pas de lien avec les facilitateurs sexuels. Je vais même être honnête avec vous. Je ne sais même pas s'il y a une association qui s'occupe de cela dans le Maine-et-Loire. Franchement, je ne le sais même pas.
Nous, notre travail, il va peut-être, par exemple, plus se situer autour de qu'est-ce que c'est qui fait que c'est pas possible pour ses parents de pouvoir envisager que leur enfant en situation de handicap ait une sexualité. Et qu'est-ce qu'ils mettent derrière la sexualité ? On va toujours essayer de repartir sur la représentation.
La représentation,
c'est ça. Là, on est sur des publics qui sont, on va dire, vulnérables dans une certaine mesure et qui sont sous protection et donc effectivement les tuteurs, les curateurs se sentent obligés de maîtriser tout.
Et là, vous amenez la question du consentement. Que le consentement peut être, on a réalisé au niveau de l'association 3 capsules par rapport à cette thématique-là. Le consentement dans le couple, le consentement chez l'adolescent et le consentement chez la personne âgée quand la maladie d'Alzheimer s'en mêle. Et cette question-là du consentement, c'est de se dire, avec quoi finalement on va consentir quand on consent ? Et peut-être que tout ce qui est autour de la cognition pure, c'est peut-être pas cette sphère-là qui est utilisée, qui est mobilisée quand on consent.
Ok, merci.
Absolument.
Bon, Josiane, est-ce que tu peux nous égayer un peu l'esprit après tout ça ? Est-ce que tu vas nous faire sourire, rire aux éclats ? Je me demande.
Voilà. Donc, en fait, j'ai souvent l'habitude de leur faire retrouver des petits proverbes. Alors, par exemple, a priori, je risque de ne jamais aller vous voir. Ou alors... C'est les animaux de la ferme.
La thématique. Ouais, d'accord.
Tu veux nous poser un lapin ?
Non. J'irai vous voir quand les poules auront des dents.
Ah.
Alors, être victime.
Le dindon de la farce.
Voilà.
Bravo.
Être le dindon de la farce.
Voilà. Bravo. Oh, mais toi, tu as toujours été choyé partout où tu es passé, tout ça. En fait, tu te conduisais un peu comme...
J'ai pas dû être suffisamment
choyé. Les animaux de la ferme, comme un coq en pâte. Voilà. Mesdames, je dois vous dire que vous m'avez beaucoup impressionnée. Donc.
Je l'ai pas.
Vous m'avez fait un effet bœuf.
Ah, excellent.
Alors, pendant que vous vous exprimiez, il y avait un grand silence. On aurait
entendu une bouche voler.
Bravo. Alors ça, il paraît que quelqu'un, on parlait des gens qui étaient un petit peu malades, mais il y a des gens, ils sont pas franchement malades, mais ça tourne pas trop rond. Donc, qu'est-ce qu'ils ont
sur la patte.
Au plafond.
Oui.
Ah oui.
Une araignée au plafond, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc, bon, je vais pas vous enquiquiner plus longuement. Je vais laisser ça, c'est le dernier. Je vais pas aller vous chercher
des poux dans la tête. Voilà.
Bon, bah, merci Josiane. Je te propose de passer ton micro à Jacqueline juste à côté. Et puis Jacqueline, tu as toujours.
Ah bah attends, j'en ai deux voilà. Là, deux micros.
T'as toujours notre agenda culturel et que faut-il ne pas manquer dans les 15 jours à venir?
Ah oui, alors moi je suis plutôt dans l'exposition Camille Lepage qui s'intitule On est ensemble. C'est une exposition qui se passe à Écouflant. La photojournaliste angevine Camille Lepage est décédée maintenant il y a 10 ans en plein reportage en Centrafrique. Écouflant rend hommage à son engagement et au travail des photoreporteurs à travers une exposition temporaire. Donc, ils ont tiré 70 photographies de la photojournaliste. Ceux-ci rendent compte de la situation en République centrafricaine et au Soudan dans les années 2012 et 2014, au cœur des conflits. L'entrée est libre de 17h à 18h30. C'est rue Simone Signoret à Écouflant.
Merci Jacqueline. J'ai peur que depuis 10 ans, ça n'aille pas forcément mieux en Afrique.
Hélas, ouais. Non.
Mais bon.
Sinon, j'ai en peinture contemporaine, ça se passe à Rivedart au Poncé, du 25 mai au 20 juin. C'est une exposition sur la peinture contemporaine.
Ok.
Voilà.
Donc, tout style de peinture, mais contemporain.
Très contemporain.
Bon, très contemporain, ça c'est une invitation à aller voir quand même. Hein.
Oui, oui.
Merci Jacqueline.
Très, très contemporain.
Bon, on a fait du lien aujourd'hui, mais pour faire encore plus de liens, je vous propose qu'on rappelle les coordonnées de l'association AFCCC3C, hein, pour les auditeurs, pour Association Française des Centres de Consultation Conjugale. Rappelez-nous les coordonnées.
AFCCC 49 06 04 08 21 12.
Bon, merci Yannick. Oui?
Est-ce que, Raphaël, est-ce que vous avez la possibilité d'ajouter sur votre site peut-être le lien des capsules dont Annick a parlé, parce qu'il y en a une sur la capsule sur le couple, et comme on en a parlé tout à l'heure, je me dis, tiens, ça peut être intéressant, et puis l'autre sur les personnes âgées, je me dis, tiens, ça peut être...
Eh bien, on fera en sorte que le lien soit disponible sur le site de France Alzheimer 49, la page Facebook, et puis les autres médias
et qu'on utilise.
Les amis, c'est l'heure de se séparer déjà. On n'a pas eu le temps de diffuser le cinquième morceau, ce sera pour la prochaine fois. Donc merci Jean-Jacques.
Merci à vous.
Merci Josiane.
Merci à tout le monde.
Merci Jacqueline.
Merci à vous tous.
Merci.
Et toutes.
Merci Marc.
Merci, à bientôt.
Merci Cathy.
Merci pour votre accueil.
Merci Annick.
Merci.
Et merci Paul-Marie.
Merci.
Et on se retrouve tous les auditeurs pour la 101e dans 15 jours. À bientôt.
Quand on partait sur les chemins,
sur les chemins, sur les chemins,
à bicyclette,
à bicyclette,
à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.